Votre question est parfaitement éclairante. Elle contient déjà la réponse. Effectivement, c'est dans la méditation, on écarte une part importante des grandes confusions qui peuvent entretenir la souffrance en nous. Celle que vous avez décrite est un exemple parfait. Penser à la place de l'autre, lui reprocher d'avoir telle intention, d'avoir voulu faire telle chose, au lieu de s'occuper de ce qui nous fait souffrir, de nos émotions, et de dire ce que nous ressentons. Et tout ça sont les bases à la fois des pratiques méditatives qui vont vers, avant d'agresser, de reprocher de quoi que ce soit, observe d'abord ce qui t'arrive à toi. Qu'est-ce que tu ressens? Comment c'est dans ton corps? Quelles pensées? Quelles impulsions? Et éventuellement, parle de ça à l'autre. Et souvent, faisons exactement l'inverse, mais c'était exactement ce que vous avez très très bien décrit. Et là encore, nous avons beau le savoir, il n'y a que l'entraînement régulier, l'humilité, la persévérance à fonctionner différemment qui nous amènera vers d'autres voies. Je ne sais pas si vous voulez compléter, les amis. Non. Mais la question était déjà la réponse, c'était parfaitement clair. Merci beaucoup.
Bonjour, désolée si ma voix tremble un petit peu. Je m'appelle Sophie, donc qui vient de Sagesse. Je suis hyper empathique, hyper bienveillante, hyper trop gentille, trop tournée vers l'autre et pas du tout centrée sur moi. J'ai découvert l'an dernier, il y a 2 ans, je ne sais plus, que je suis en fait haut potentiel. Donc vous parliez tout à l'heure d'intelligence, je me croyais idiote et en fait et très blonde. Complètement à côté de la plaque. Et en fait, je suis surdouée au potentiel. Et j'ai découvert que, du coup, j'ai un émotionnel débordant et je ressens trop l'autre. Je ressens à sa place, je suis dans la sympathie, j'arrive pas à mettre de barrière et ça me cause des souffrances. Je suis là. Je suis toute petite et je vous fais des coucous sur votre
droite. Ah d'accord, pardon, merci.
Du coup, j'ai beaucoup de mal à gérer tout ça. J'ai beaucoup cheminé, j'ai découvert la psychologie positive et beaucoup de techniques. J'ai pu publier, j'ai envie de former les orthophonistes, parce que je suis orthophoniste. J'ai envie de former concernant le burn-out pour justement essayer de s'écouter soi-même, de faire attention à soi, de savoir s'affirmer. Donc tout ce que j'ai entendu auprès de vous ce soir, je vous remercie. J'ai quand même encore beaucoup de questionnement vis-à-vis de moi-même parce que justement j'ai le côté extrême mais de l'autre côté. Et la deuxième question aussi, c'est que du coup neuronalement, le haut potentiel, il y a beaucoup d'effervescence, des zones, etc. partout qui s'éclairent et je suis un peu confuse, mais du coup la méditation, enfin j'arrive à j'aime buller, j'aime prendre du temps pour moi, m'émerveiller, parce que du coup j'arrive à m'émerveiller de tout. J'ai ce côté hyper sensoriel, mais du coup je suis quand même épuisée et j'arrive pas à me ressourcer sur le long terme.
Alors juste pour adresser un des points que vous avez soulevé à propos de la résonance excessive que vous remarquez parfois, et le fait que ça peut mener au burn-out notamment. Et là, il y a vraiment une confusion fondamentale entre, vous parlez de sympathie, vous avez parlé de quelques termes, entre l'empathie et la bienveillance. L'empathie, c'est finalement quelque chose, on pourrait dire, presque de très technique dans notre paysage mental. Il est assez limité finalement. C'est pas du tout la bienveillance ou l'amour de l'autre qui englobe tous les êtres. C'est la faculté que l'on a, que nous a été donnée par la nature, par l'évolution, de connaître la situation de l'autre. Alors on peut le connaître affectivement. Quelqu'un arrive très joyeux, j'entre en résonance affective, je suis en joie, et je sais que c'est déclenché par la joie de l'autre. Quelqu'un souffre, si vous êtes travailler dans le monde des soins, des services sociaux, on sait très bien
que le burn-out affecte un très grand nombre de personnels soignants, parce que les malades, a priori, ils guérissent ou ils meurent, mais c'est très rare qu'ils souffrent pendant des années et des années et des années. Tandis que si vous êtes en résonance empathique avec la souffrance de l'autre et que vous souffrez jour après jour de la souffrance d'autrui, parce que c'est une souffrance véritable, et les neurosciences montrent effectivement que les aires du cerveau de la souffrance sont véritablement activées. Vous souffrez véritablement de la souffrance de l'autre. C'est trop demandé. Donc que faire? Se distancer, c'est pas une très bonne idée, ça mène à la froideur. Le burn-out, c'est pas une bonne chose, l'épuisement émotionnel, la détresse empathique. Donc des travaux auxquels j'ai modestement collaboré avec une neuroscientifique qui s'appelle Tania Singer, qui est une grande spécialiste de l'empathie, a été de montrer que l'antidote en fait à cette détresse empathique, c'est effectivement la bienveillance, une dimension beaucoup plus positive, beaucoup plus vaste, qui englobe, qui embrasse les êtres par une sorte, bon, l'amour c'est un grand mot, mais une véritable bienveillance chaleureuse, humaine. Et s'il y a une fatigue de l'empathie, il n'y a pas de fatigue de cette bienveillance, parce qu'en fait, elle nous nourrit aussi bien qu'elle nourrit autrui. Donc déjà, se méfier un petit peu de rester simplement dans la résonance empathique, parce que ça mène effectivement au burn-out. Donc vous voyez, une meilleure connaissance de tous ces différents états mentaux est extrêmement utile, parce que finalement, le remède au burn-out, et d'ailleurs, Tania Singer va entreprendre un programme au niveau des hôpitaux, un entraînement à la compassion, à la bienveillance, qui n'est pas du tout quelque chose qui mène à la fatigue. Donc tout ça, ça veut dire qu'il faut peu à peu discerner de mieux en mieux les états mentaux qui mènent ou qui minent notre bien-être, notre équilibre intérieur, notre paix intérieure, notre résilience, et ceux au contraire qui vont nous aider à construire cette résilience et cette force d'âme. Je voulais juste ajouter que en ce qui me concerne, j'ai toujours pensé que j'étais idiot, mais malheureusement, ça se confirme de jour en jour.
Rajouter un tout petit point sur cette bienveillance si importante dont Mathieu a parlé. Il est très important de tourner notre bienveillance vers autrui, évidemment, mais en thérapie, nous avons souvent attiré l'attention de nos patients sur la bienveillance tournée vers soi-même, puisque beaucoup de personnes, c'est un peu le même mécanisme, ont une sorte, alors je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, de, c'est pas l'empathie, se mettre dans l'autre, mais d'intropathie. Ils sont très, effectivement, perçoivent parfaitement leur souffrance, parfois se focalisent même sur ces souffrances, mais ce qui leur manque très souvent, c'est la bienveillance pour eux-mêmes. Alors ça paraît un peu glissant comme ça d'attirer l'attention de nous tous et nous toutes sur le fait que c'est important d'avoir de la bienveillance pour soi, parce que souvent on confond l'auto-bienveillance avec l'auto-complaisance. Lorsqu'on parle d'avoir de la bienveillance pour soi, certaines personnes ont l'impression qu'on les encourage à trop s'écouter, à trop se sentir concerné par elle-même. En réalité, l'auto-bienveillance, c'est à la fois la reconnaissance du fait que nous souffrons. Beaucoup de nos problèmes viennent du fait qu'on n'identifie pas nos souffrances. Quand je suis en colère contre quelqu'un, très souvent, ce qui déclenche cette colère, c'est ma souffrance, parce que je ne me sens pas assez aimé, pas assez respecté, pas assez écouté. Donc, les bases de cette auto-bienveillance sont d'abord la claire identification de ce que je suis en train de ressentir moi-même. C'est aussi le désir de ne pas me faire de mal, de ne pas rajouter à la violence du monde une seconde dose de violence que je m'infligerai en niant mes besoins, en me rudoyant, en me méprisant, en m'ignorant. Et puis aussi, dans l'auto-bienveillance, il y a cette dimension d'humanité commune. C'est-à-dire me rappeler que je ne suis pas un être unique, le seul à souffrir autant, le seul à être aussi malheureux, etc. Mais que ce que je suis en train de vivre, c'est quelque chose que tous les humains peuvent vivre. Et ça n'est pas pour m'empêcher de souffrir ou dévaloriser ma souffrance, mais c'est pour me rapprocher des autres. Et lorsqu'on est soignant, ce que décrit Mathieu, la différence entre être dans l'empathie pour la personne qu'on a en face de nous, qui vient nous raconter ses souffrances, et puis être dans la compassion
qui est une forme d'empathie avec de la bienveillance, effectivement, la différence, elle tient beaucoup au sentiment de fraternité qu'on peut éprouver pour ce patient ou cette patiente qu'on a en face de nous, qui est un frère ou une sœur en humanité, et dont on a on n'a pas seulement de la peine pour ce qu'il est en train de vivre ou ce qu'elle est en train de vivre, mais on a le désir fraternel d'alléger cette souffrance. Et c'est pas une démarche intellectuelle, c'est quelque chose qui se passe vraiment à un niveau beaucoup plus profond, beaucoup plus émotionnel. Et effectivement, là encore, moi, ça a été un des grands changements dans ma vie de thérapeute. J'ai toujours souffert, comme tous les thérapeutes, de voir mes patients aller mal. Mais c'est étonnant hein, de réaliser ça tard. Là encore, c'est comme l'histoire de la méditation. J'ai fait un progrès considérable, à la fois, je pense, pour les soigner, mais aussi pour terminer les journées moins ravagées par ces souffrances que j'avais eu à accompagner, quand je me suis permis de les aimer davantage. Tu disais, bon, je ne sais pas trop s'il fallait utiliser ce terme d'amour par rapport à la bienveillance. Et donc, quand je me suis mis à me rapprocher davantage d'eux, non pas physiquement, en leur disant, mais vraiment en abolissant la distance intérieure que j'avais jusqu'à présent, moi thérapeute, lui patient, et au fond en fonctionnant dans la plupart des moments de la consultation, dans un dialogue d'humain à humain. Donc c'est quelque chose de très important à la fois pour nous, parce qu'on veut aider les autres, mais aussi par la manière dont nous traitons cette bienveillance, qui n'est pas une fois de plus de la complaisance.
Alors peut-être pour faire preuve d'auto-bienveillance généralisée, donc d'aller faire dodo, de prendre une dernière question peut-être, vu l'heure qui passe.
Bonsoir, je m'appelle Clément.
Alain.
Si je vous ai bien suivi, en fait la sagesse c'est quelque chose qui est plutôt qui se travaille sur soi et qui ne se demande pas, mais j'ai quand même l'impression que nos dirigeants politiques manquent pour certains de sagesse. Et ma question s'adresserait plus spécialement à Alexandre, vu votre grande spontanéité. Si demain vous étiez face à notre nouveau président et qu'à vos yeux il manquerait de sagesse, qu'est-ce que vous lui diriez pour lui donner envie d'être davantage sage?
D'abord, je voudrais dire que c'est dommage qu'Alexandre soit suisse, parce que ça serait un président idéal.
Je suis pas sûr d'être le meilleur conseiller politique qui soit. Il y a un truc qui est quand même basique, c'est le bien commun. Vouloir. Il y a un philosophe qui s'appelle John Rawls qui dit quand on envisage la société, toujours prendre le point de vue du plus faible. Et la façon dont on accueille les minorités, moi je suis frappé que quand je regarde la politique, je suis suisse, donc. Mais c'est Mathieu qui m'a rendu sensible à ça, c'est un détail, mais c'est quand même important. Le nombre de fois où on emploie le mot « je », d'ailleurs François Hollande, « j'ai pris la décision », mais toute l'équipe, le nombre du « je », j'ai pas souvent entendu parler de « nous ». De l'autre. Déjà, alors, moi je crois que ce qui mène à la sagesse, c'est la vraie paix intérieure. J'aime beaucoup Spinoza qui dit c'est pas la privation qui mène à la liberté, mais c'est la joie qui mène à la béatitude. Autrement dit, c'est parce qu'on est dans la joie qu'on est capable de passer à côté de la vanité comme à côté d'une lettre. tant qu'on n'est pas dans la vraie joie, on cherche dans le pouvoir, dans la vanité, des palliatifs à mal-être qui est énorme. Donc, moi je pense que le manque de sagesse, si je peux me permettre, c'est vraiment placer le curseur là où il n'y a pas lieu d'être. Être en politique, ça devrait être le lieu du service où on souffre. En Suisse, par exemple, je ne sais même pas le nom du président. Ça change tous les années. On s'en fout d'ailleurs. Tandis que moi je vois ce qui se passe aux États-Unis, il y a un connard qui signe des décrets. Et quand il y a une ministre de la justice qui dit attendez, ça viole la Constitution, qu'est-ce qu'il fait? Il a fout dehors. Après une semaine, eh bien là, à mon avis, il y a un problème sérieux. Chacun, c'est vraiment de vivre au quotidien un autre rapport au monde. Je ne serai jamais conseiller de c'est qui a passé Benoît et moi, ou je ne sais pas. Bon, bref. Mais ce que je peux faire en acte, c'est accueillir avec bienveillance le voisin de palier. C'est. Essayer de répondre à ma manière généreuse à toutes les personnes que je suis amené et pas rentrer dans cette spirale du narcissisme. Et voilà. La sphère d'influence, c'est notre quotidien. Là où on peut porter des îlots de rébellion contre l'individualisme, quoi. Ouais. Mais j'ai pas de temps.